Paul Sécu, épisode sur l'actualité. Semaine terminale le 28 juin 2026, enregistré le 8 juillet 2026. J'enregistre malgré tout puisque les nouvelles sont intéressantes pour les opinions et ce que ça l'amène dans la réflexion d'un côté et deux. Je fais le retexte des deux événements qui ont été durant la semaine se terminant le 28 juin 2026. Commençons avec les retex en question, justement. J'ai assisté à Troopers pour la première fois. J'ai adoré cet événement-là. J'ai été mis en contexte dans une chose un petit black hat. Les gens, mais de façon beaucoup plus accessible, beaucoup moins, trop de traits différents, trop d'éléments, trop de gens. Donc, une trop grande distance entre les présentateurs et le public. L'avantage d'un petit événement comme toutes les choses relatives, là, mais comme Troopers, contrairement à Black Hat USA, par exemple, qui est immense, la capacité d'aller aborder les speakers, d'aller avoir une conversation avec eux, d'être en contact, c'est super intéressant. Ça l'amène un regard qui est pour moi beaucoup plus riche. Et de ça, j'ai deux contacts avec des francophones avec qui j'ai potentialité d'enregistrer des podcasts sur leur présentation, ce qui risque d'être super intéressant parce qu'ils emmènent des sujets qui sont différents. Ça, c'est le Troopers. Donc, moi, j'ai initié, donc je vais y revenir l'an prochain et dans un contexte encore plus mieux organisé que cette année parce que ça a été un peu garoché. Donc, ça explique aussi pourquoi j'ai de la misère à enregistrer mes épisodes d'actualité. La densité de un des événements, des gens que j'ai rencontrés m'ont pris beaucoup de mon temps, normalement que je consacre à l'épisode d'actualité. Le deuxième retexte, c'est sur le hack. Ça, puis en même temps, j'avais promis dans les shorts que je fais. Le hack, c'est mon deuxième expérience de l'événement. J'ai trouvé ça très intéressant. Plus intéressant que ceux de l'an passé pour le fait que les sujets étaient mieux alignés avec ma curiosité. Donc, c'était plus des sujets qui m'ont beaucoup intéressé pour ce que j'ai vu comme sujet, comme dans ce genre d'événement-là, et je commence à être un peu plus en contact avec des gens en Europe, notamment en France. Beaucoup de parties de l'événement passaient à des conversations super intéressantes avec des gens en France sur leur réalité, ce qui se passe, et ainsi de suite. Fait que j'ai fait des contacts. Super intéressant, encore une fois, durant cet événement-là, mais mieux que l'an dernier. Donc, ça prend maturité. Donc, je commence à être un peu plus à l'aise dans l'écosystème français. Ça commence à se sentir dans comment j'aborde les événements. Donc, j'ai pu bénéficier encore plus du hack. Ça a eu un retour pour moi beaucoup plus grand. Et les sujets, et quelques conversations intéressantes, va aussi également aller sur des entrevues spécifiques avec certains présentateurs que j'ai trouvé tout à fait spectaculaires. J'en ai au moins deux qui sont en cours de planification, donc j'ai hâte de voir comment ça va se matérialiser, mais ça a déjà en train d'avancer de ce côté-là. Donc, il y a des retours pour moi en termes d'enrichissement personnel qui est valide pour quiconque en bas ce genre d'événement-là qui est très, très grand. Par ailleurs, comme le CTF ou le War Games qu'ils appellent, le hack, je ne participe pas, question de temps, timing, tout ça. Tout était quand même assez compressé cette année dans mon horaire. C'était un peu fou, mais je crois que c'est très intéressant. Je vais essayer de parler avec ces personnes-là. Je sais qu'ils ont passé sur, au moment où j'enregistre, l'épisode du No Limits UK a été diffusé. Donc, ils ont eu des conversations de ce côté-là. Pour ça, j'ai tenté de contacter parce que j'ai fait une série, puis je l'annonce un peu. Parce que j'ai déjà des épisodes d'enregistrer, je peux en parler plus librement. Je ne sais pas combien de personnes vont participer, mais je suis en train de regarder comment le IA a un effet dans les CTF. Et normalement, le hack, c'est. Je vais en tout cas, je suis en amorce de conversation avec eux pour voir leur appréciation a posteriori de ce qui s'est passé. Dans l'épisode de No Limits, c'est qu'ils parlent de ce qui s'est l'avant, l'anticipation. Et la préparation, et moi je vais aller récupérer avoir la conversation à posteriori s'ils veulent bien partager avec moi. Donc ça fait partie des deux retextes pour la semaine se terminant le 28. Shameless Plug, 9 septembre, B-Side, 20 au 26 septembre, BrewCon, 13-14 novembre, DEFCON, en tout cas, bref, c'est pas le DEFCON ou Las Vegas, c'est DEFCON Quel événement défensif. Bref, 16 au 19 novembre, Urban Cyber Week. 1er au 3 décembre, InCyber au Canada. 24-25 février, le Sécur revient. Commençons avec les nouvelles. Volet IA. Cette semaine, il y a eu beaucoup encore de rebondissements avec tout ce qui se passe avec Mythos, tout l'export de contrôle, tout ce qui s'en en est. Il y a plusieurs des éléments qui ressortent de l'analyse des gens et du regard de ce qui se passe, c'est dans le fond, Anthropique, c'est un peu peinturé dans le coin, en survendant les capacités réelles de Mythos, donc a créé cette angoisse-là. D'autres informations disent que le modèle aurait réussi à casser les réseaux protégés américains, donc ça, c'est un peu intéressant de voir ce type de choses-là, donc peut-être un et un dans l'autre se positionnent pour amener cette inquiétude-là par rapport à ces modèles-là limite. Il en est sorti aussi d'autres choses qui ont sorti dans les semaines qui suivent que je n'aborderai pas cette semaine, j'aborde dans l'autre épisode d'actualité qui est en retard lui également, mais bon, bref, je suis la séquence des choses. Donc bref, c'est un peu dans cette perspective-là. Mythos s'est quand même redéployé un petit peu sur autorisation. Donc, on voit que les choses changent, l'inquiétude se place par rapport à ça. Puis, il y a d'autres nouvelles qui ont très rapport avec cette inquiétude-là qui s'est placée. Et de ça aussi, il y a plusieurs éléments de réflexion. Puis les gens, on commence à avoir la réflexion par rapport à Mythos. Je l'ai eu avec Nicolas Bédard notamment, mais j'ai eu dans d'autres occasions. Mais ça a des changements. Ce qu'on voit notamment, c'est des vieilles vulnérabilités qui n'avaient pas été trouvées-ish dans le passé. Donc, Mythos le fait dans le cas de Squid, par exemple, qui est un élément comme ça. Nous place dans d'autres circonstances. Aussi, comment on doit changer notre modèle de surveillance, de protection. Il y a des articles intéressants qui sont dans les show notes, notamment, qui font référence à comment on doit maintenant observer le réseau, on observe les différents éléments, ou on observe comment ça, tout ça se passe, et d'aborder différemment la cybersécurité. Donc, ça doit changer nos paradigmes, mais nous revenir à la base. Puis c'est un peu ça aussi que Mythos nous ramène, que si on réduit notre exposition, on réduit notre problème, donc tous les éléments d'hygiène de base demeurent et même sont encore plus importants. C'est pour la première fois que je le mentionne par rapport à Mythos, l'IA et tout ça, et de voir comment ça évolue a des conséquences très importantes sur nous. Donc, l'espèce de paresse qu'on avait ou la non-volonté des organisations à appliquer la cybersécurité parce que c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences, ben là, ça est en train de basculer de façon importante et on aura d'un côté beaucoup de vulnérabilités à couvrir, beaucoup de vulnérabilités à corriger durant les prochaines semaines, prochains mois et conséquemment, ben, il y aura des efforts de se faire de ce côté-là et peut-être de la réarchitecture de faire de ce côté-là. Si on continue dans l'aspect Mythos aussi, puis le paradoxe que l'export control apporte sur ce genre de choses-là, puis le GPT aussi est affecté, 5.5 était affecté aussi par une partie de ça, c'est que les modèles chinois ont continué d'avancer quand même. Les compagnies chinoises font mention qu'ils ont des capacités équivalentes à Mythos, ce qui est peut-être vrai, ce qui est peut-être pas vrai, parce qu'on l'a vu aussi dans la manipulation du message et de voir comment tout ça se fait, mais dans tous les cas, cette évolution-là qu'il y a avec les intelligences artificielles ne peut pas être contenue par de l'export control, même si les États-Unis ont mis sous le giron de l'export control ces modèles-là, donc signale l'importance que ces modèles-là ont pour eux, donc de la protection de la sécurité nationale. En même temps, il y a des limites et on va voir, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Et comment cette arme-là, peut-être qu'on va voir l'intelligence artificielle basculer du côté ITAR, de l'export control, c'est-à-dire du côté de l'armement, comme la crypto l'avait été dans les années 80-90. Donc, de voir comment tout ça va se matérialiser, mais ça va être intéressant de voir l'évolution et comment les philosophies par rapport à ça vont changer, comment on l'aborde, comment les modèles OpenWave vont agir là-dedans. Bon, bref, ça va changer un peu le paysage, puis en cybersécurité, ça va avoir nécessairement des conséquences. Donc, je pense que c'est un bon moment de commencer à réaliser le problème et d'évoluer par rapport à ça. Puis on ne parle même pas de l'usage de l'utilisateur normal qui lui-même se tire dans le pied à certains égards, parce que les faiblesses fondamentales dans le fonctionnement du LLM n'est pas très bien compris encore par les organisations, donc on est un peu dans dans cette phase-là, ce qui va avec. Et justement, un peu dans la même continuité, puis c'est une autre sous-section dans les show notes, mais qui revient un peu à ce genre de choses-là. Et un peu à ce que je viens de mentionner d'ailleurs également, le 5.5 de GPT qui est capable de faire du patchage, que le constat que ça vient modifier et qu'on va devoir aborder différemment. Et aussi tout le contexte des vulnérabilités, le contexte de divulgation des vulnérabilités aussi va changer. On a vu un peu un cafouillage avec Microsoft et Nightmare Eclipse, notamment, où tout ça s'est mal déroulé sur des vulnérabilités qui n'ont probablement pas été trouvées par l'IA dans les circonstances. Mais bon, il y a eu un cafouillage de ce côté-là. Et de l'autre côté, la quantité de vulnérabilités qui est exposée à l'heure actuelle est telle que ça change les choses. J'ai d'autres nouvelles dans d'autres sections qui vont aller aborder, mais ça change un peu le paradigme. Il n'y a plus d'effets comme ça l'était, où c'était des événements plus exceptionnels qui amenaient des problèmes. Maintenant, ça va être industrialisé. Donc, il va y avoir d'autres séquences par rapport à ça. Comment on va aussi aborder l'ingénierie logicielle et comment le vibe coding va inclure beaucoup plus de problèmes que dans le réseau en quelques circonstances. Bref, ça fait partie des deux sous-sections de l'intelligence artificielle que je trouve important de séparer du restant. Des autres nouvelles en intelligence artificielle qui sont encore très riches cette semaine. Bref, continuons. Il y a eu une étude sur la fuite des skills pour les agents et l'effet des mots de passe. C'est intéressant parce qu'il aborde les axes où tous les endroits où ça va fuiter, et notamment le fait que c'est très verbose le output des agents. Normalement, on va voir les secrets passer à travers ces verboses-là, comment ça se retrouve dans le guide, tout ça. C'est très intéressant. Ça ramène aussi l'importance de compagnies, notamment comme GitGuardian, avec qui je collabore pour le podcast, ou Boost Security, qui sont dans un autre axe, sont deux axes parallèles par rapport à ça, ou même Flare, qui amène toute la recherche dans le Dark Web, où on voit où la quantité de choses qui fuitent et qui est très, très importante. Donc ça n'est un axe. Et à quel point les gens qui développent les skills n'ont pas l'habitude, ou les agents n'ont pas les connaissances suffisantes pour bien encadrer ce genre d'informations-là, pour éviter ces fuites de secrets-là, dans notamment des dépôts publics. Bref, comment monter une défense contre la persistance dans les attaques. Ça, c'est des papiers de recherche. Fait que je fais juste à très, très haut niveau parce que le papier est très intéressant, mais nous amène dans un état de réflexion. Comment on peut se défendre comme la capacité d'injecter dans les agents et la mémoire. Et ça nous met en considération comment le fonctionnement des LLM est dangereux, si on veut, au sens où on est capable d'injecter dans la mémoire. Ça, puis le papier de recherche suivant aussi, c'est comment on fait pour faire de l'injection lente, donc d'être capable de contourner un certain nombre de mesures de contrôle pour réussir à tranquillement ou par des agents ou la multiplication par rapport à ce type de choses-là. Donc, on est toujours dans un contexte où comment on utilise, on fait attention ou on sécurise les agents ou l'intelligence artificielle ou la mémoire qui est utilisée pour ça, ou le RAG, pour réussir à bien cerner, bien éviter les problèmes d'injection dans la mémoire, parce que c'est essentiellement là où les attaquants se dirigent. On le voit de plus en plus dans les nouvelles où il y a des attaques réussies avec ce type d'approche-là, qui est d'injecter. Mais là, c'est plusieurs papiers de recherche qui regardent plusieurs angles différents. Donc, intéressant de les considérer dans les designs si vous avez l'intention d'utiliser des agents. C'est l'intention d'utiliser des choses qui s'appuient sur des états de mémoire comme ceux-ci. Bref, pour cette vague-là, un autre papier de recherche intéressant sur la façon qu'on utilise la deception, la façon surtout dans les honeypots, de comment réussir à tromper l'attaquant un peu ou à amener celui-ci. Et le papier fait état du fait que les stratégies face aux humains ne fonctionne soit littéralement pas avec les machines, le AI, parce que la façon qu'ils processent ne tombe pas dans les pièges humains qui sont faits pour détourner l'humain. Mais de l'autre côté, l'AI est très sensible à d'autres types de détournements comme ça, et permet justement de diriger le AI vers ailleurs, donc sur des mauvaises pistes, puisqu'il va, la façon d'ingérer l'information va être facile à tromper pour certains types d'attaques. Donc, bref, c'est intéressant de regarder. Et c'est des stratégies à utiliser justement pour se défendre ou ralentir les attaques arrivant de l'intelligence artificielle en le faisant tomber dans un tarpit, là, c'est les, un trou de goudron puis le, qui reste coincé à l'intérieur de celui-ci. Donc les stratégies sont pas les mêmes, mais très intéressant de voir comment on est capable de le mettre en œuvre. Microsoft utilise l'intelligence artificielle pour relier deux groupes d'attaquants. Et c'est là, puis là, ça, c'est un usage très, très classique de l'intelligence artificielle. On est capable de cruncher un très grand nombre de données et de faire des corrélations entre ceux-ci. Avant que le LLM arrive, c'était vraiment dans cet axe-là qu'on utilisait l'intelligence artificielle, notamment en cybersécurité, avec les grands quantités de journaux d'événements qu'on recevait. C'est une façon de voir des tendances à travers ceci. Donc, c'est un usage qui a été fait. Des skills malicieux dans les dans OpenClaw, c'est encore une fois, c'est toujours ces environnements-là où on sont immatures. On le voit beaucoup dans les dépôts de paquets NPM, bye-bye, et suite. Donc, tous ces environnements-là mal contrôlés nous amènent à nous exposer davantage. On doit être très, très prudent. Et il y a des expérimentations qui ont été faites, qui ont été capables de démontrer facilement qu'on est capable d'insérer du code malicieux dans ces codes-là. Donc, d'être très, très prudent quand vous voulez utiliser ces outils-là, qui sont très utiles. Par ailleurs, j'en ai certains en cours d'utilisation qui facilitent ma vie, mais sont dans des carrés de sable très, très définis. Donc, je leur demande pas de gérer le paiement de mes comptes, mais je leur demande de produire certains petits knick-knacks qui me sauvent pas tant de temps sur une journée, mais sur une année, va me sauver énormément. Bref, réflexion. Au papier de recherche sur le fait de transformer des informations récoltées en bout des CTI en règles IDS déployables et effectives. Et là, c'est très intéressant parce qu'on amène un usage qui est un bénéfice en cybersécurité réel de retirer l'humain de la boucle, ou en tout cas le moins dans la boucle de détection automatique, si on veut, à partir de CTI. Et ça devient super intéressant parce que là, il y a un gain, à ma perception, beaucoup plus important que juste de filtrer automatiquement les alertes. Donc, on est capable d'avoir des alertes beaucoup mieux raffinées, efficaces, qui sont capables de fonctionner comme ça. Fait qu'on a quand même une piste intéressante de ce côté-ci, dans la recherche toujours, mais quand même qui va atterrir sur des choses beaucoup plus utilisables, mais probablement nous sauver beaucoup de temps et nous aider énormément. Le source ouvert cause des problèmes au gouvernement, notamment. Et ça, c'est dans un contexte AI. J'ai mis dans un contexte AI parce que, en l'occurrence, c'est toute l'arrivée de Mythos qui vient bousculer ça. Donc, on se retrouve avec plein de logiciels qui sont en fin de vie ou qui sont pas supportés, plus supportés, ou en tout cas, ça revient un peu à la même chose, et dans lequel cas, on doit agir et qui sont déployés un peu partout. Et ça se met en opposition, j'aime beaucoup, en tout cas, bref, je l'ai mis là parce que on a d'un côté, avec tout le volet de souveraineté numérique, un effort très, très grand d'aller en open source, et de l'autre côté, ben, tous ces logiciels-là qui sont plus supportés ou qui sont mal supportés, nous amène dans un contexte où la sécurité est un problème très important. Je crois que les gouvernements à travers le monde devraient prendre sur eux de s'en occuper, mais pas de façon directe comme ça le présuppose là, mais du fait que ça devrait être utilisé davantage dans leur infrastructure interne. Donc, l'ITI des différents gouvernements du monde devraient s'appuyer beaucoup plus sur l'open source. Ça, c'est mon take. Et de là, de cet usage-là, au lieu de dépenser des fortunes dans des développements personnalisés comme c'est fait actuellement, sur du code fermé qui reste à l'intérieur, ben de mettre ce même, à la limite, ce même argent-là, qui est quand même assez substantiel, dans les projets open source. Donc, dès lors, d'avoir cet argent public-là qui vient entretenir de façon plus formelle, plus structurée, tout ce code source ouvert qui est disponible, et donc de cette recontribution d'argent public vers ça. Donc, bref, c'est un peu mon truc, je peux un peu écarter, mais je trouve ça très important d'arriver comme ça. Dans la nouvelle section-là, c'est une personne qui a mis un agent d'assistance sur Internet pour le faire tester par des gens. Il y a deux 2000 personnes qui ont essayé de le tromper. Ça n'a pas fonctionné dans son expériment. Donc, les gens n'ont pas réussi à casser, donc son expérimentation a réussi à démontrer que sa stratégie de sécurisation a fonctionné. Donc, c'est très intéressant. Lui, c'est OpenClaw qui avait utilisé pour faire ce test-là. Et donc, il a démontré qu'on est capable de sécuriser correctement OpenClaw pour éviter des problèmes. Mais ça demande quand même un certain degré d'ingénierie, de connaissances inhérentes à ça qui n'est peut-être pas accessible à tout le monde en l'occurrence. Bref, c'est la fin de cette section-là. Section sur la guerre, il y a une nouvelle. Essentiellement, elle est catholique, mais elle est importante d'être mise dans la conscience. L'Ukraine mentionne que la Russie a réussi à poser un acte en se basant sur un faux message de support qui a été envoyé. Donc, c'est intéressant de voir que des stratégies qu'on voit pour par les fraudeurs pour voler de l'argent sont utilisées aussi dans un contexte militaire, donc de nous amener à cette bataille-là. Donc, essentiellement, la guerre en Ukraine, puis maintenant la guerre en Iran, vient flouter énormément cette frontière-là, ce qui est civil et ce qui était purement militaire. On le voit aussi avec les drones, on le voit avec beaucoup de choses. Donc, c'est ça. Et ça a des conséquences très importantes pour le volet civil, notamment, puisque si ces frontières-là sont plus poreuses qu'elles l'ont été auparavant, on va voir des stratégies militaires atterrir dans le monde civil d'un point de vue cyber, on s'entend. Là, on ne parle pas de conflits armés, mais on parle de conflits cyber-armés, si on veut comme ça, qui risquent de toucher. On le voit dans certains égards, ceux qui font sont dans des socles, on voit jusqu'à ça une partie. Mais ça va glisser, donc des stratégies ou des façons, des tactiques utilisées vont glisser comme celles civiles vont glisser ou glissent actuellement dans le monde militaire. Donc, on est dans cette perspective-là. Bref, section sur la souveraineté, encore une fois, juste une nouvelle, mais aussi intéressante, puis elle fait un peu écho à l'export control qui a été utilisé sur Anthropic, Mythos. Dans ce cas-ci, une nouvelle loi aux États-Unis qui sert à renforcer l'export control sur les processeurs, les GPU ou les NPU, si on veut, spécialisés en intelligence artificielle. Dans quel cas, à l'heure actuelle, les Américains constatent qu'il y a du détournement quand même de processeurs qui sont contrôlés par l'export control en passant par des pays tiers notamment. Donc, la façon qu'ils veulent régler ça, c'est que par une loi, veulent renforcer les éléments d'export control à ce que le fabricant puisse tracer où est utilisé son processeur d'intelligence artificielle pour s'assurer qu'il ne se retrouve pas dans des pays qui sont non autorisés, donc l'export control le bloque. Fait qu'on ramène encore dans ce débat cette réflexion-là d'export control qui est utilisée pour limiter les autres. Donc, ça signale quand même qu'il y a une inquiétude forte sur ce côté matériel, comme elle a été exposée avec le côté logiciel, avec l'usage de l'export control pour les modèles de la famille Mythos et Fairbone. Donc, bref, on le voit comme ça. Fait que ça va risquer d'être encore très, très présent comme pensée. Donc, on change de façon de fonctionner. Puis, c'est intéressant que ça s'amène sur l'espace public, justement, pour qu'on puisse avoir cette compréhension-là, puis cette conversation-là dans l'espace public, justement, pour nous amener à un endroit qui est, je crois, voulu par tout le monde. Bref, section privacy, c'était... bon, bref, on va avoir des choses. Flock, il y a beaucoup de policiers qui utilisent ça pour stalker des notamment des femmes, pas exclusivement, mais notamment. Et ça amène un débat intéressant. Un, notamment, que le fait de l'usage des mandats et un passage obligé pour éviter ces abus-là. Dans le cas de Flock, c'est flouté un peu parce que c'est un usage en opération et c'est pas un usage de type normé comme avec un mandat judiciaire pour accéder à l'information. Et c'est un des rares systèmes qui a justement cette exception-là parce que beaucoup d'autres exigent de passer par un juge pour être autorisé à accéder à l'information, ce qui est un contre-pouvoir qui est de toute apparence nécessaire. Flock le montre de façon flagrante que ce contrôle-là est nécessaire. Même si tout le monde le sait que tout accès à ce type d'information-là va finir par être abusé par les gens qui l'utilisent. Dans ce cas-ci, c'est les policiers. Et puis, c'est pas les policiers que je qualifie de quel problème, mais c'est cet accès-là à trop d'informations. On l'a vu, si on prend le cas au Québec où à la SAC, il y a eu un scandale où une taupe avait accès à des informations, donc de contrôler, ou à l'Agence du revenu du Québec notamment, où il y a eu des accès non autorisés à des dossiers fiscaux. et qui ont amené à renforcer les règles, mettre des contrôles techniques et à changer les règles d'embauche, c'est-à-dire qu'il y a des congédiements semi-automatiques ou automatiques lors du dépassement d'accès à des informations qui sont potentielles. Donc, on a quand même un blocage administratif et technique fort dans des organisations où l'information est sensible. On l'avait abordé ce sujet-là avec Cybercitoyens, notamment aussi dans le dernier enregistrement, sous le fait que il y a cette exagération-là, et c'est inévitable que l'exagération va arriver, et de fermer les yeux en 2026, c'est de pas admettre que l'humain est un humain et vivre encore dans un monde de licorne dans lequel on pense que si on a l'accès à l'information, les gens vont avoir une retenue suffisante pour ne pas accéder à l'information. Il y en a qui sont effectivement capables de se retenir et de respecter de façon éthique l'information. Mais il y a un pourcentage de gens qui ne le sont pas. Il faut admettre que ces gens-là existent et qu'il faut mettre les contrôles en place pour que ces personnes-là n'exagèrent pas sur l'utilisation des données. Donc, c'est un peu dans cette réflexion-là. Puis j'en remets une couche parce que je trouve ça important qu'on le fasse pour qu'on arrête de présumer la bonne foi, si on veut, de 100% des gens. Il y en a qui l'ont. Donc, bref, puis qu'on puisse ramener ça dans la réflexion et qu'on arrête de faire ces folies-là. Qui sont un peu étranges. Toute la disparition de la vie privée sur Internet, et c'est ça, puis j'en ai plusieurs là, dans d'autres sections aussi, qui est intéressante, puisque l'Internet a amené un état de surveillance très, très grand. Le fait qu'on fasse tout est tracé, tout est numérisé, nous amène dans une réflexion qui est différente. Et plus, dans le fond, le titre de cette nouvelle-là, c'est plus utiliser du papier pour réduire la surface de surveillance Internet. Et on constate qu'à bien des égards, cette surface de surveillance-là nous cause de plus en plus de problèmes. On le voit en France, malheureusement, je prends cet exemple-là parce qu'il est largement public, où toute la quantité de fuites d'informations associées parce qu'on conserve trop d'informations sur des choses. Donc, bref, il y a comme un équilibre ou une réflexion à avoir ce qu'on fait avec ce type de choses-là et comment on l'amène ailleurs et comment on amène cette réflexion-là, cette volonté d'automatiser, qui est un avantage très important d'Internet, et ou de l'informatisation, de numérisation, ou la digitalisation, si on va sur un vocable français, nous amène dans un contexte de vulnérabilité très, très grande. On va le voir aussi dans d'autres nouvelles, mais c'est important puis de voir comment on se réactualise par rapport à ça. Puisque clairement, on n'a pas réactualisé nos lois correctement, on n'a pas réactualisé nos approches, nos us et coutumes, donc tout ça est important. Autre nouvelle, la Maison-Blanche change les deadlines de la résistance au quantum pour la crypto. Ça fait probablement, sans dire que c'est conjoint, mais l'ANSSI a fait la même chose en France, donc on voit qu'il y a une part des institutions régaliennes d'une volonté d'accélérer. Donc, clairement, il y a quelque chose qui se passe qui nous a pas été informé. Mais bof, où il y a une inquiétude de plus en plus importante, c'est un signal fort, à mon avis, qu'on s'en va vers quelque chose. J'ai toujours un certain doute sur le quantique, sur le fait que ça va tout briser demain matin. Mais par ailleurs, pour les institutions de ce degré d'importance-là, la protection contre le quantique est très importante, puisque eux ont des formations qui vont dépasser le deadline du quantique. Et cette information-là est intéressante pour les acteurs qui ont la capacité monétaire de payer potentiellement le futur ordinateur quantique qui va briser la crypto. Donc, on est dans ce degré d'évaluation de la menace, donc d'analyse de risque. Donc, c'est intéressant de voir ce changement-là. Mais je trouve ça important aussi que des organismes de régulation comme ça vont forcer le marché à changer et pas de laisser les choses se régler par elles-mêmes parce que on le voit, ça va pas très bien. Bref, dernière nouvelle de cette section-ci, la loi C36 au Canada, qui est un peu la reprise de la modernisation de la loi sur la vie privée au niveau canadien, elle est appuyée, elle est concomitante avec le C34 qui est sur la Digital Arm, qui est tout le volet de protection de l'enfance notamment et des choses comme ça. Ces lois vont brasser beaucoup. Je mets cette nouvelle-là pour que vous puissiez aller la lire si ça vous intéresse. Par ailleurs, je vais quand même enregistrer avec des avocats, parce que je ne suis pas, pour être capable de décortiquer C34 et C36 de façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus adéquate. Donc, on va pouvoir, puis j'aurai une conversation parce que ça m'intéresse beaucoup. Ça le disait fait, j'aime moins ces deux nouveaux projets de loi que je pouvais aimer les moutures précédentes. Donc, il y a eu un appétit un peu plus grand à l'invasion, comme C22 d'ailleurs aussi, qui est une invasion assez grande, qui va être étudiée au Sénat, je crois, à l'automne. Donc, ça va donner lieu à des réflexions importantes de voir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et comment comme pays on se positionne. Est-ce qu'on va vraiment vers une capacité, une dilution de la vie privée des citoyens comme on voit à bien d'autres endroits? Donc, ça, c'est des réflexions très importantes à avoir. Section suivante, la loi. Le premier sous-bloc que j'ai, puis qui prend le plus important de cette section-là, c'est encore toute la volonté à l'international et au Canada, parce qu'on l'a dans le C34, de protéger les enfants sur Internet. Mais en même temps, ça l'amène des réflexions absurdes parce que c'est de la surveillance. Là, il parlait de bloquer les VPN, comment on fait tourner ça, qu'est-ce qu'on fait. Il y a plusieurs éléments, puis même un article, c'est dire, allez, on va bannir les enfants, c'est une enquête partie, qui est intéressante. Puis c'est Dr. Rowe qui amène probablement l'axe plus de réflexion le plus intéressant, le plus approfondi que j'ai vu jusqu'à présent. Oui, il faut protéger les enfants. Par ailleurs, en les protégeant, puis ça, j'ai bien aimé la démonstration de l'absurde. Parce que ce qu'on devrait faire, c'est faire de la surveillance de masse. Fait qu'on autorise l'État à surveiller parce qu'il n'y a pas de notion de vérification d'âge. Comme ça, c'est une drôle de notion qui n'existe pas sur Internet, en quelque sorte. Et dans les faits, puis j'ai beaucoup aimé son approche, c'est-à-dire que on veut protéger les enfants de l'exposition, notamment dans certains cas de pornographie, des médias sociaux, de tout cet appareillage-là qui vient avoir des effets toxiques sur la formation de l'identité des enfants vers des adultes qu'on pourrait considérer comme étant sains. Et ça, je suis entièrement d'accord avec l'idée que tout ça vient dévier et vient troubler cette phase-là de formation de l'identité de ces personnes-là. Par ailleurs, puis là, j'adore de son regard, c'est on veut, on prend juste le volet pornographique, c'est un done deal, il n'y a pas de très grand espace à contester là-dessus pour plusieurs des études. En plus, qui viennent appuyer tout ça, si on regarde sur les médias sociaux, puis c'est un peu ça, ce qu'avec la loi en Australie qui a été mitée un peu partout à travers le monde, que je trouve bien comme idée, puis parce que ça va s'étendre à travers le monde, ça va faciliter les choses. L'autre côté, l'autre facette à ça, c'est que on veut protéger les enfants des médias sociaux qui sont déjà une invasion à la vie privée parce qu'eux-mêmes font une collecte énorme d'informations. Fait qu'on est en train d'éteindre le feu avec le feu, c'est-à-dire que toute la surveillance et tous les algorithmes et tout ce qui est absorbé par les médias sociaux, on veut empêcher cet accès à ça, pas en interdisant l'usage d'un algorithme ou en interdisant la collecte des informations sur les enfants ou en interdisant ce genre de choses-là, ou de diriger les enfants vers d'autres choses, on fait juste les bloquer. On va vers l'autre côté, on dit oh, c'est interdit, plateforme vous devez bloquer parce que vos pratiques sont pas saines. Puis on parle pas de pornographie, c'est là est facile. Là on a dans les médias sociaux des outils de communication, d'interaction avec d'autres humains. Et au lieu de dire vos algorithmes sont pas bons, donc viennent briser la formation de l'image des enfants, des adolescents, notamment en ayant des algorithmes qui nous amènent dans de l'extrémisme. Notamment comme Catherine, le cybercitoyen, le dit régulièrement sur nos podcasts communs. Au lieu de régler ça comme problème, on essaie d'interdire en surveillant les enfants. Donc, c'est vraiment, c'est très paradoxal comme approche. Et je crois qu'on devrait, puis c'est pour ça que je fais un grand bloc là-dessus, d'amener dans la conversation publique, d'arrêter de vouloir surveiller ou de vérifier comme ça, mais d'amener des législations qui vont pour bloquer l'accès aux médias sociaux, mais qui vont contraindre ou empêcher l'usage de stratégies très prédateurs des plateformes de médias sociaux, cette déviation-là, la colère et ainsi de suite, donc des années ailleurs. Donc c'est peut-être là le vrai problème ou la vraie solution. Donc je sais que les lois en Californie se rapprochent un peu de cet aspect-là des choses, où justement, on doit déclarer si c'est facile, notre contenu est adapté pour les enfants, tout ça. Il commence à avoir une réflexion au niveau Californie, c'est qui est très intéressant, mais qu'on ne voit pas et qu'on a, qui n'est pas encore assez approfondi à savoir, c'est peut-être le contenu, puis des médias sociaux, la façon d'opérer, qu'on devrait contrôler et non dans les enfants qu'on essaie de au passage. Bref, c'est mon take là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup d'espace à réfléchir. Ça m'a fait beaucoup réfléchir ces articles-là. Et je pense qu'on doit amener et d'arrêter de vouloir espionner les enfants. Parce que, bref, parce que les compagnies les espionnent, on devrait juste empêcher les compagnies de les espionner, puis on réglerait probablement 80% du problème. Et donc, on réglerait le problème algorithmique qu'on veut protéger nos enfants, notamment. On le voit aussi, le doom scroll. Parce que, bref, d'aller dans cette direction-là, je pense qu'elle est beaucoup plus intéressante de normer le fonctionnement des médias sociaux que d'empêcher les enfants d'y accéder. C'est fédéral, plus nuancé que tout ce qui est volet pornographique aussi. Il n'y a pas de nuance, ça c'est très tranché. Dans le cas des médias sociaux, il y a beaucoup plus de nuances, puis je pense qu'on a intérêt à en parler. Bref, je t'amène mon rant là-dessus. Au Canada, le Spy Agency, j'aime ça le titre qui dit l'utiliser le vrai nom, le C6. Utiliser un mandat pour faire du nettoyage de codes malicieux ou de botnets ou sur des équipements qui est au Canada. Je trouve ça intéressant parce que, puis là, on parlait justement de Flock, l'usage des mandats pour accéder à l'information. Donc, on a un processus normé comme ça avec un contre-pouvoir, donc un juge qui vient valider l'intérêt légitime de ça selon les lois et tout ça fonctionne. Je trouve que c'est une balance très intéressante dans l'usage et effectivement d'agir sur ce genre de choses parce qu'il y a des limites. Donc, ça, il y a eu ça au Canada, il y en a eu d'autres ailleurs. L'article le relate ce qui s'est passé aux États-Unis notamment pour avoir un encadrement légal pour permettre à ces agences-là d'intervenir dans des moments où c'est très important puisque certains botnets peuvent être très toxiques pour ce qui se passe et même pour la sécurité nationale, en l'occurrence. Donc, bref, je trouve ça intéressant. Mais je reviens sur le fait que c'était cadré, c'est bien fait. C'est pas au bon vouloir de la personne. Donc, dès lors, on se trouve dans un contexte beaucoup plus serein sur l'usage de ce genre de stratégie-là. Quoi qu'on en dise, Washington Post a été poursuivi par le département de la justice américaine pour divulgation de secret. Il y a eu comme une chicane comme ça. Puis j'ai jamais la nouvelle là parce qu'elle était intéressante. Parce que le Washington Post a décidé de contester. Et finalement, le département de la justice américaine a retiré sa plainte, si on veut comme ça. Fait que c'est, on se trouve dans un univers où on a un armement du département de la justice aux États-Unis. Ça, j'apprends pas grand-chose à la part des gens. Mais de voir comment ça se passe et comment ça se négocie. Et que c'est important de s'opposer comme à ce genre d'usage un peu abusif et aussi pour l'importance du contre-pouvoir que sont les médias traditionnels, là, en l'occurrence, justement pour véhiculer la bonne information, de faire sortir les scandales, justement pour éviter les abus du système dans lequel on est capable d'équilibrer la démocratie dans laquelle on est. Donc, je trouve que c'est très important. C'est pour ça que j'ai mis la nouvelle là. Dernière nouvelle de cette section-là qui est intéressante parce que je n'ai eu parlé précédemment aussi. En Europe, il y a eu beaucoup de tentatives de blocage de sites pirates de diffusion. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec l'idée ou la façon que c'est fait, mais bon, bref, je trouve qu'on ne se prend pas à la bonne façon. Mais bon, bref, ça devient un long débat, mais qui en même temps bon, nous ramène sur le fait comment on protège les droits d'auteur, comment on permet aux gens de faire juste revenu sur leur production, mais bref. Au-delà de ça, c'est un peu sur ça que les lois sont pensées et utilisées, mais des fois abusées. Et là, l'usage des moyens technologiques, il y a eu beaucoup de blocages dans les DNS, des choses comme ça, en Europe pour justement bloquer des sites pirates de rediffusion qui ne sont pas autorisés. Donc, c'est ce qui est considéré comme étant du vol. Cela étant, le DNS for you, a refusé d'acter une demande de cette nature-là, puisque selon les principes de création de cette entité-là, qui est un DNS pour l'Europe, là, qui permet une certaine forme d'autonomie, de souveraineté au niveau de leur capacité d'infrastructure fondamentale d'Internet, a refusé. de parce que ça ne faisait pas partie de sa portée, de la façon que ça a été fait. C'est-à-dire, moi, je réagis qu'un mandat de la Cour, puis dans ce cas-ci, c'était pas un mandat de la Cour, donc a refusé de bloquer les sites pirates. Ce qui est très intéressant comme réflexion est de voir comment on doit faire et à quel point les frontières entre bloquer tout ça, oui, il faut bloquer. Il y a des raisons, puis je conteste pas. Moi, je conteste plus peut-être le moyen qui est utilisé et à quel point l'État, des fois, est instrumentalisé dans le blocage ou dans certaines protections d'intérêts privés qui ne devraient pas nécessairement être protégés par l'État. Mais bon, bref, dans ce cas-ci, on voit un peu ce débat-là, et ce débat-là est intéressant parce que ça la ramène où on se situe vraiment. Donc, d'aller lire, c'est un article de Corbin qui est très, très intéressant par rapport à ça, qui nous mène cette réflexion. Fin de cette section-là, la section rouge, ça va aller assez vite, là. Il n'y a pas de grand espace philosophique. Moi, dans les sections précédentes, le Brésil va faire une enquête sur le fait qu'il y a eu une brèche dans le système d'alerte national, dans lequel, ce qu'on connaît dans d'autres pays, les textos qu'on reçoit qui nous alertent d'un problème majeur qui va se faire rentrer. Très intéressant, parce que ça nous met en lumière, là, puis la nouvelle ne parle pas de ce qui s'est passé, puis probablement des nouvelles par après vont peut-être être plus concluant par rapport à ça. Mais bref, de ces systèmes-là à grande capacité vont toujours amener de l'intérêt des attaquants. Donc, il faut mettre un effort supplémentaire. Donc, plus on augmente la valeur du système, plus on va attirer des attaques. Donc, ce cas-ci, c'est une attaque. Ça a été un geste politisé, mais bon, bref, c'est comme ça. Fortibly, la nouvelle que je mets là, mais une très, très belle analyse. C'est beaucoup de réutilisation de vieux breaches, de vieilles informations, de compilations, d'attaques, de pivots. Donc, c'est très intéressant et donc d'aller d'extension par rapport à tout ça. Donc, si vous avez des problèmes, revisitez vos forties pour vous assurer que ceux-ci sont correctement corrigés, nettoyés, tout ça. Mais l'analyse est très intéressante et à voir à quel point ou l'ampleur des problèmes qu'on a, l'ampleur de ce que les fuites du passé ont comme conséquence dans le présent. C'est très intéressant de ce côté-là. AWS me prévient sur le fait que le trafic sortant est un angle mort sur l'exfiltration. Je trouve ça très intéressant qu'il l'amène. Pour moi, il n'y a rien de nouveau dans ça. Mais que ça soit ramené dans un article dans l'espace public, je trouve ça intéressant. Ça veut dire qu'à ce stade-ci, la surveillance en egress, en sortie, n'est pas si forte que ça. Et pourtant, on devrait contrôler tout ce qui rentre et tout ce qui sort des organisations en termes de trafic réseau, justement pour limiter des fuites qui peuvent avoir lieu. Il y a des fuites par des DNS, les articles, etc. Tout ça, parce qu'il va plus loin. Mais de limiter ces affaires-là et de surveiller correctement, on n'est pas... je pense qu'il y a un petit peu de paresse dans le design, mais bon, bref, quand on parlait précédemment de revoir nos surfaces d'attaque à cause de l'intelligence artificielle ou des modèles sophistiqués comme Mythos, ben ça en fait partie. Il faut surveiller, il faut vraiment qu'on ait une ingénierie, si on prend le terme plus américain, correct de nos systèmes pour s'assurer qu'on n'a pas de capacité. Bref. Dialogue, deux petites nouvelles à ce côté-là que je trouve très drôle. La première, c'est que d'un côté, ils disent qu'ils ont été hackés quand dans les faits, tout ce qu'ils démontrent, ça n'est que de mauvaise configuration. C'est intéressant de voir que des groupes de tech bros comme ça notamment n'ont pas investi suffisamment et vont aller tout de suite aller déchirer leur chemise sur la place publique comme quoi ils ont été hackés quand c'est juste un défaut fondamental de configuration, un mauvais design de leur système a laissé fuiter de façon vaste. Donc c'est intéressant. Et que ces gens-là, très riches et influents, soient complètement déconnectés et n'aient pas de ça. L'autre côté, puis là, c'est le Pentagone, va faire enquête sur les données qui ont été exposées. De ces gens influents-là, il y a des gens qui sont dans l'appareil gouvernemental américain et que la connaissance de leur adresse personnelle peut les mettre à risque. Toute l'information a fuité, fait qu'il y a des conséquences aussi de rassembler toutes ces informations-là très sensibles sur des gens très influents. Donc, c'est pas anodin, disons, cette situation-là. Fait que c'est très particulier de voir ça se passer comme ça. Bref, section bleue. Rust va embaucher un AI Security Engineer. C'est intéressant, puis ça revient, ça recoupe avec les autres, mais je l'ai mis plus dans la section bleue, en l'occurrence celui-ci. Ils ont décidé de prendre, parce qu'ils reçoivent beaucoup, comme tout le monde, des déclarations de vulnérabilité et de fonctionnement. Donc, d'avoir mis quelqu'un qui est spécialisé, ça, il va mettre en œuvre du tooling, il va mettre en œuvre comment filtrer ce qui est reçu et tout ça. Et donc, de faire acte que le paysage a changé. Puis ça, c'est important. Puis c'est pour ça que je le mets là, que le paysage a changé. Il faut que nos approches changent. Donc, comment on filtre les divulgations, comment on traite les informations et comment on s'équipe correctement. Et en plus, comme c'est dans l'écosystème open source, de source ouverte, et donc c'est financé par des fonds qui sont justement pour appuyer ça. Le tooling et tout ce qui va en sortir va être partagé avec les autres projets similaires comme PHP, par exemple, qui est aussi dans la même réflexion. Et donc, un gain massif pour tout le monde, ça c'est une bonne chose, et probablement que ça va être divulgué plus largement. Donc, tout le monde va bénéficier de ce projet-là, fait que c'est très, très intéressant. Autre nouvelle, Microsoft ajoute une nouvelle année au support étendu de Windows 10. C'est pas sans rappeler Windows XP qui a eu beaucoup d'extensions comme ça. Et je crois que c'était un peu arrogant de leur part de penser que les gens allaient abandonner Windows 10 vite pour Windows 11. Et en plus que Windows 11 demande des caractéristiques matérielles différentes. Donc, force une désuétude accélérée. Donc, il y a un petit peu d'arrogance de ce côté-ci, mais au moins, force de constater qu'au-delà de ça, ils tentent et ils prévoient que le problème sera étendu encore plus loin que ça. Mais bon, c'est une bonne chose. Initiative sur la gestion de la fin de vie de l'open source, c'est un meilleur coupé avec la nouvelle sur comment les gouvernements doivent gérer l'open source dans l'ensemble. Mais de l'autre côté, c'est toute la gestion des problèmes de fin de vie et un peu la négligence de certaines équipes de développement qui font pas attention et utilisent soit des composants qui sont déjà en fin de vie ou qui ne changent pas les composants. Donc, il y a toute cette facette-là. Il y a des initiatives, c'est bien parce qu'on va être capable de rénover, puis je pense qu'on est rendu à ce degré-là ou à cette place-là. Et encore là, je reviens sur, comme je recoupe avec l'autre nouvelle, je crois que c'est l'État qui devrait prendre charge de ces choses-là, donc de cadrer. Finalement, dernière nouvelle dans la section d'hiver, une petite nouvelle. Ça, je la trouve intéressante parce que puis elle n'est pas tant cybersécurité que ça, mais c'est une compagnie de cybersécurité, puis c'est pas la seule, ou en tout cas, il y a des produits qui se rapprochent dans un grand ensemble de la cybersécurité. Dans le cas, c'est le fondateur de Mulvan, qui est une chose qui vient protéger la vie privée, a un discours d'extrême droite et je si on veut, comme ça. Je ne suis pas allé lire les textes, donc je peux pas prononcer là-dessus, c'est de l'information de seconde main. J'en parle pas parce que je veux le pointer lui spécifiquement dans ce cas-ci. Mais de constater qu'à plusieurs égards, puis là, on fait un lien avec les tech bros notamment, où il y a des discours limites qu'on retrouve chez certains dirigeants de certaines compagnies qui protègent la vie privée ou qui ont des pratiques qui sont saines d'un côté, qu'on trouve que c'est utile, mais que de l'autre, leurs propriétaires ont des discours sont plus en marge de ce qu'on pourrait s'attendre socialement à ce moment-là, ou en tout cas des valeurs globales qu'on a comme société. Donc, on a cette facette-là. On l'a vu aussi, puis le très bon épisode avec le cas de WordPress, qui est très intéressant à l'écouter parce que Maxime fait une très belle historique de ce qui s'est passé, à voir comment un propriétaire ou un fondateur peut commencer à glisser vers ailleurs, vers d'autres angles qui ne sont pas nécessairement sereins dans ce cas-ci. Et on se retrouve comme ça. Fait que c'est très intéressant. Et à ce moment-là, c'est à quel point? Puis ça, c'est une question qui est plus philosophique. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais terminer là-dessus. À quel point les actions des propriétaires actuels ou passés de ces compagnies-là doivent moduler la façon qu'on utilise les logiciels qui vont avec? Est-ce que c'est un appui direct et fort à la philosophie qui est peut-être contraire à nos valeurs de ça? Donc, bref, ça l'amène des réflexions beaucoup plus profondes. Bref, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez écouté jusqu'au bout. Merci de vous être rendu jusqu'au bout, jusque-là. Je vais enregistrer rapidement aussi l'épisode du... celui qui suit celui-ci, là, pour l'actualité. va être un petit peu moins en retard que celui-ci. Par ailleurs, là, je suis encore en déplacement, fait qu'il va avoir de la latence. Je vais recevoir tout d'un coup beaucoup d'épisodes qui étaient déjà préenregistrés, que j'ai juste pas eu le temps de faire le montage. Et comme je mentionnais au début, j'ai passé beaucoup de temps avec des gens super intéressants. Et j'ai une énorme préférence, en vieillissant, de passer du temps avec des gens, faire les liens, faire les choses comme ça. Donc, ça m'a enrichi beaucoup comme personne. Ça diversifie mes points de vue, ça me permet d'avoir un regard plus grand. Donc, bref, j'essaie de m'excuser du retard, mais bon, bref, les choses étant ce qu'elles sont, je pense qu'on a les bénéfices de tout ça dans en tout cas, du moins pour moi, dans un avenir approché. Sur ce, je vous remercie. Là, le prochain va sortir assez rapidement. Tout va découler si vous avez jusque-là. Bref, merci. À la semaine prochaine.